Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Nous en avons parlé hier soir. Le gouvernement a été désavoué par le Conseil d'État. La juridiction administrative lui demande de réimposer le contrôle technique des deux roues des véhicules de plus de 125 cm3. C'est une directive européenne datant de 2014 imposant, pour des raisons environnementales mais aussi de sécurité, un contrôle régulier des deux roues motorisées, des freins, de la direction, de l'éclairage, de l'adhérence et de la propreté. Nous en parlons avec un homme en colère, Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la fédération Motards en Colère. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors cette directive européenne a le don de vous hérisser le poil. Pourquoi ?
Oui, tout à fait. On peut s'étonner quand même de ce jugement, puisque là, le Conseil d'État dépasse un peu ses prérogatives, dans la mesure où c'est quand même le législateur, c'est l'État et c'est l'État qui normalement fait les lois. Le Conseil d'État présume que nous sommes en illégalité vis-à-vis de l'Europe, alors que en réalité, l'Europe, elle demande qu'il y a un contrôle technique à ses États membres pour les deux roues motorisées ou des alternatives mises en place. Et c'est sur ce dossier que nous avons travaillé avec le ministère des Transports, puisque nous avons travaillé sur la mise en place d'alternatives justement pour échapper au contrôle technique. D'ailleurs, comme trois autres pays en Europe, l'Irlande, les Pays-Bas et la Norvège, je crois. Donc c'est assez étonnant, d'autant plus qu'on nous vend ce contrôle technique sous couvert de sécurité, alors qu'en réalité, vous savez, à l'époque, on a mis le contrôle technique en place pour les voitures. Ouais. 17% des voitures étaient impliquées dans un accident à cause de leur mauvais état. Donc c'était effectivement urgent de s'en occuper. Pour les deux roues motorisées, c'est 0,3%. Vous voyez ? Donc, c'est pratiquement rien du tout.
Alors, ce contrôle technique des deux roues, Jean-Marc Bellotti, le premier doit avoir lieu 4 ans après la mise en circulation du véhicule, puis après tous les 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon la Fédération Motards en Colère, cela est trop pénalisant, trop contraignant ?
C'est pas tellement que c'est contraignant, c'est que ça sert à rien, parce que un deux roues motorisé, ce n'est pas une voiture. Et sur un deux roues motorisé, on voit tout de suite les organes de sécurité, ils sont visibles à l'œil nu, contrairement à une voiture. Par exemple, si vous voulez regarder vos freins sur une voiture, vous êtes obligé de tout démonter, les roues, etc. Sur un deux roues motorisé, pas du tout, vous le voyez tout à fait à l'œil nu. Effectivement, c'est notamment après en dynamique, un deux roues motorisé, c'est pas non plus une voiture. S'il se passe quelque chose, on le ressent très vite. Tout ça pour nous usagers de deux roues motorisées, ça ne sert à rien. D'autant plus que la moyenne de roulage annuel d'un deux roues motorisé, c'est 3000 km. Alors il y en a qui font 20, 30 000, 40 000, d'autres qui font 300, mais en tout cas la moyenne c'est 3000 km. Ce qui veut dire que si on met ça tous les 2 ans, par exemple, après les 4 ans, on met ça tous les 2 ans, le véhicule aura parcouru en moyenne 6000 km avant d'être contrôlé. Donc c'est rien du tout. Alors, vous voyez, le kilométrage est très très faible.
Alors, le gouvernement semble comprendre votre colère. Hein. Il avait abrogé le contrôle technique des deux roues avant de le réimposer, puis de le réabroger. Puis il y a eu cet avis du Conseil d'État hier. J'aimerais que l'on écoute le ministre des Transports, Clément Beaune.
Il y aura très probablement un contrôle technique, puisque le Conseil d'État en a décidé ainsi, on applique le droit. Ses modalités, son calendrier restent à concerter, à définir. Et en tout cas, je le dis aussi parce qu'il y a eu des inquiétudes, il n'y aura pas d'application immédiate, parce que le Conseil d'État lui-même nous a dit il faut justement des mesures qu'on appelle d'application, donc il faut discuter. Il n'y a pas de délai qui a été fixé par le juge, donc on prendra, je veux que pour tout le monde, on aille le plus vite possible pour pas qu'il y ait d'inquiétude ou d'incertitude, et donc c'est une concertation qui durera sans doute quelques semaines.
Alors, la Fédération Motards en Colère, Jean-Marc Bellotti, va-t-elle participer à ces concertations annoncées par le ministre des Transports, Clément Beaune ?
Oui, bien évidemment, ça nous allons être d'ailleurs les principaux participants, et la FFMC, donc la Fédération des Motards en Colère, et la FFM, Fédération Française de Motocyclisme, puisque c'est nous déjà qui avons travaillé avec le ministère pour pouvoir mettre en place toutes les alternatives et pour pouvoir justement faire annuler le contrôle technique en France. Donc il est évident qu'on va être les premiers à être rappelés, et le ministre a souligné également qu'il allait inviter les associations environnementales. les mêmes associations environnementales, enfin qui se disent environnementales, mais qui sont de fait anti-euromotorisées, puisque l'une d'elles s'appelle Ralescoot, donc vous voyez rien qu'avec le nom, on comprend ce qu'ils veulent.
Ralescoot, Paris sans voiture, voilà.
Donc, on parle compris,
aussi,
hein.
On donc, parle aussi fait, beaucoup d'environnement, mais aussi de la nuisance sonore. Qu'est-ce que vous répondez à ces associations qui pointent la nuisance sonore que provoquent les véhicules motorisés un peu vieux, mal entretenus? Parce que ça existe, évidemment, Jean-Marc Bellotti.
Ça existe, bien sûr. Alors, le contrôle technique n'a absolument rien à voir avec la nuisance sonore. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'ailleurs, en Allemagne ou en Autriche, où le contrôle technique est mis en place depuis belle lurette, ils ont déjà des problèmes avec certains motards, parce que c'est une minorité des motards qui font du bruit, malheureusement, et qui, nuisent à l'image de la grande majorité des motards. Ceux-là même, donc, qui vont faire du bruit, enfin, qui roulent en montagne dans les cols autrichiens, le gouvernement essaye de mettre en place des mesures pour réduire le bruit. Et pourtant, ils ont le contrôle technique, vous voyez. Alors, tout simplement, c'est inutile parce que un motard ou un scooteriste qui a la volonté de changer son pot d'échappement, il va aller avec un pot totalement conforme au contrôle technique, ok? Il va ressortir avec un contrôle technique en bonne et due forme, et il suffit d'une quinzaine de minutes pour changer son pot d'échappement et remettre un pot d'échappement pas conforme. Et donc, il aura un contrôle technique en parfaite légalité, et il aura un pot d'échappement qui sera absolument illégal. Vous voyez? Donc, le contrôle technique, ça sert à rien par rapport à ça. Il y a déjà des mesures qui existent contre le bruit, ça peut aller même jusqu'à l'immobilisation du véhicule. Toutes ces mesures existent. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas les appliquer. D'ailleurs, la FFMC, ça fait depuis 1985 que nous luttons contre le bruit et que nous interpellons certains motards en leur disant que notre liberté ne doit pas nuire à celle des autres et que le bruit, c'est pas une obligation. C'est même très très mal de faire du bruit.
Merci beaucoup Jean-Marc Bellotti. Je rappelle que vous êtes coordinateur de la Fédération Motards en Colère. Vous réagissiez ce soir sur Europe 1 à cet avis du Conseil d'État qui demande au gouvernement de réimposer le contrôle technique des deux roues. Je précise évidemment pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes contre. Merci beaucoup Jean-Marc Bellotti. Dans
Merci
quelques instants, nous parlons politique à l'étranger, les élections législatives en Israël aujourd'hui. Elles vont peut-être signer le retour de Benjamin Netanyahou au pouvoir. Nous sommes avec le docteur en géopolitique Frédéric Ancel. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
On vote aujourd'hui en Israël et vous avez peut-être le sentiment d'entendre cette information souvent. Vous avez raison, ce sont les cinquièmes élections législatives en moins de 4 ans. Vous entendez aussi souvent un nom lorsque l'on parle de politique israélienne, celui de Benjamin Netanyahou, chassé du pouvoir il y a un peu plus d'un an. Il pourrait signer son retour au Beit Hagion, la résidence du Premier ministre israélien. Nous sommes avec un grand spécialiste du Proche-Orient, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur des Voix de la puissance chez Odile Jacob. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors je le disais, 5 élections en moins de 4 ans et toujours le même sentiment de législative référendaire, pardonnez-moi ce néologisme, pour ou contre Benjamin Netanyahou, Bibi pour les intimes, Bibi et son parti, le Likoud.
Oui, vous avez raison. Bibi, dont je rappelle qu'il est arrivé au pouvoir pour la première fois en mai 1996. Et vous excuserez du peu, il a battu à l'époque de quelques milliers de voix Shimon Peres, qui était considéré comme un géant, qui l'était d'ailleurs, dans l'histoire d'Israël. Netanyahou, 3 ans plus tard, perd les élections face à Ehud Barak, un général bien connu en Israël. Il traverse le désert pendant quelques années, mais en 2009 et jusqu'en 2020, donc, il sera sans discontinuer au pouvoir, battant par là même le record de David Ben-Gourion, qui avait été le proclamateur de l'État d'Israël.
Alors, venons-en à ces élections aujourd'hui. Benjamin Netanyahou est favori, selon vous, Frédéric Ancel? Il a une chance de revenir au pouvoir?
Alors, je vais m'accrocher à votre deuxième partie de question, tant il est vrai que les sondages en Israël se plantent de manière absolument systématique. D'ailleurs, c'est si vrai que là, ces derniers jours, en réalité, ils donnent au coude à coude Yair Lapid et Benjamin Netanyahou, comme ça, au moins, cette fois, ils sont sûrs de ne pas se tromper. Non, votre deuxième partie de la question est intéressante. Oui, bien sûr, il a des chances très importantes de revenir. Mais, alors, une petite nuance, c'est qu'en Israël, comme vous le savez, le scrutin est à la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, dès que vous obtenez 3,25% du suffrage exprimé, vous avez automatiquement 4 députés. Et donc, il y a une parcellisation de l'électorat israélien très importante. Autrement dit, je résume, il faut avoir un bloc en Israël, un bloc de partis qui s'agrègent, qui se fédèrent, qui s'allient pour obtenir le fameux seuil de 61 députés sur 120 que compte la Knesset. Or, le Likoud de Netanyahou, c'est en lui-même déjà un parti très important. C'est le parti d'ailleurs le plus important en Israël, hein, davantage que celui de M. Lapid. Sauf qu'après, bah, il faut donc arriver à 61. Donc si aujourd'hui Netanyahou, par exemple, obtient 30 sièges pour le Likoud, mais que ces coalisés de droite et d'extrême droite et ultra-orthodoxe ne font que la même chose, 30, bah, on arrivera à un bloc de 60 sur 120, et donc ça ne suffira pas. Et on reviendra au même schéma, c'est-à-dire que ce sera à la gauche, qui est encore plus éclatée d'ailleurs que la droite, d'essayer de constituer une coalition majoritaire.
Et on va en parler. Donc, si on a bien compris votre analyse, Frédéric Ancel, Benjamin Netanyahou est dépendant quelque part du score de ses alliés, notamment son allié d'extrême droite, le parti sioniste religieux de Ben Gvir, avec lequel il a conclu un accord. Il fait partie du bloc Netanyahou, appelons-le ainsi. Le parti sioniste religieux est en plein essor actuellement en Israël. Hein.
Oui, c'est vrai. À savoir que ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que le parti national religieux, qui a fait partie des toutes premières coalitions, je rappelle que la première Knesset a été élue le 1er janvier 1949, donc juste après la création de l'État, mais que jusqu'aux années 70-80...
C'était plutôt la gauche qui dominait hein, dans les premières années.
Voilà, c'est ça. Absolument. Oui. La gauche a dominé sans discontinuer tout le mouvement sioniste depuis pratiquement 1900 jusqu'en 77, date à laquelle donc le Likoud de Menachem Begin arrive au pouvoir. Et le Parti national religieux, à l'époque, était très modéré. D'ailleurs, il faisait partie des coalitions travaillistes. Pardon. Et à partir des années 80-90, il s'est droitisé. Et aujourd'hui, sous Ben Gvir, effectivement, on a affaire à un parti clairement d'extrême droite. Si on y ajoute les ultra-orthodoxes qui détestent la gauche parce qu'elle est laïque, et donc pour des raisons bien évidemment tout très compréhensibles, ils préfèrent suivre Netanyahou, on a effectivement quelque chose de très cohérent à droite, mais il faut arriver à 61 sur 120.
Voilà, et en face, il y a donc Yair Lapid, Premier ministre, intérimaire sortant, issu de cette coalition sortante qui tente de se maintenir au pouvoir. Mais problème, peut-être, allez-vous nous le dire, son alliance est hétéroclite. Il y a la gauche, la droite, le centre et même un parti islamiste. Cette coalition s'est formée il y a un an pour chasser Netanyahou du pouvoir. Mais elle s'éclate, elle s'éparpille sur des questions centrales en Israël, comme la religion, l'État, les colonies, face au bloc Netanyahou, qui, vous l'avez dit, est plutôt cohérent politiquement.
Exactement. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui pour le centre, la gauche et la gauche radicale, c'est qu'on a affaire à une cohérence bien moindre que le bloc nationaliste religieux qu'on a évoqué il y a un instant. Et au fond, il y a un an et demi, cette alliance, dont vous avez raison de rappeler qu'elle a été hétéroclite, a réussi. Une chose, c'est chasser Netanyahou au moins provisoirement. Mais une fois que ça a été fait, bah, elle n'était plus d'accord sur grand-chose. Résultat, au bout d'un an, on revient à des élections. Alors, Yair Lapid a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que lui est très laïque. Et il souhaite, à terme, une séparation de la synagogue et de l'État. Ce qu'évidemment ne veulent absolument pas entendre parler les nationalistes religieux et a fortiori les ultra-orthodoxes. Donc sur cette base-là, il a quand même une grande partie de la gauche et du centre avec lui. Problème, là aussi, pour arriver à 61 députés sur 120, il faut l'appui d'au moins un parti arabe israélien. Alors, c'est ce qui s'est passé hein, pendant un peu plus d'un an, mais franchement, au centre de la vie politique israélienne, tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Alors, quel rôle joue l'économie, l'état de l'économie israélienne dans cette élection ? J'ai regardé les statistiques de l'an dernier. Israël, par rapport à l'Union européenne, présentait des prix à la consommation 40% supérieurs.
Oui, c'est ça. Vous avez raison de parler de l'économie, parce que ici, on a un prisme déformant. On a l'impression, avec le conflit israélo-palestinien, que tous les matins, chaque Israélien se réveille en...
Alors, je vous pose la question sur le conflit avec les territoires palestiniens, juste après, sur l'économie, Frédéric Ancel.
Mais alors, justement, c'était pour vous dire qu'on a tort. C'est-à-dire que, justement, les Israéliens s'intéressent d'abord à l'économie, au social, au pouvoir d'achat, hein, et non pas au conflit israélo-palestinien. Donc justement, c'était pour aller dans votre sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui va beaucoup jouer, c'est l'État de l'économie. Alors non pas de l'économie générale, parce que l'État d'Israël est devenu un État très puissant ces dernières années, mais de ces parcelles de la population israélienne qui sont défavorisées et qui sont même parfois, qui vivent parfois sous le seuil de pauvreté. Plus d'un quart des Israéliens, alors que l'État est de plus en plus riche et puissant, vivent sous le seuil de pauvreté. Mais le paradoxe veut que la plupart de ces gens-là votent régulièrement pour des partis religieux ou pour le Likoud de Netanyahou, alors même que le Likoud est très libéral. C'est l'un des paradoxes de la vie politique israélienne.
Alors, quelle place occupe donc le conflit israélo-palestinien dans ces élections? Il y a eu des violences récemment à Jérusalem-Est. Ça ne va pas avoir de conséquences, d'influence sur le scrutin d'aujourd'hui?
Ah, écoutez, je ne crois pas, parce que d'abord, il y a eu des violences, vous avez raison, mais on n'a quand même pas affaire à des périodes de terrorisme dur, quotidien, comme dans les années 70 ou dans les années 90 ou 2000. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il n'y a plus de guerre du Liban comme dans les années 80, où là aussi ça a été terrible. Troisième point, au fond, Netanyahou, c'est pas tellement Monsieur Sécurité, lui-même n'a jamais été un général. Alors que, Yair Lapid non plus, mais allié à Lapid, on a quand même Benny Gantz, qui lui, a été l'ancien chef d'état-major. Donc si vous voulez, en Israël aussi, peut-être paradoxe, la gauche présente en général autant, voire davantage de généraux, censé rassurer la population, que la droite. Donc je vous dirais que, c'est, à mon avis, aujourd'hui, c'est pas ce qui a joué prioritairement.
Et le conflit en Ukraine, parce que Yair Lapid s'est clairement exprimé contre l'invasion russe de l'Ukraine. Est-ce que ça a joué un rôle également dans la campagne électorale?
Alors, il est vraisemblable que ça a pu jouer un rôle auprès des russophones. Et vous savez que les russophones sont un peu plus d'un million en Israël, sur 9 millions de citoyens. Donc c'est très important. Et ces gens-là, en général, votent pour Avigdor Lieberman, qui lui-même est un juif issu de l'ex-URSS, de Moldavie, d'où il est arrivé dans les années 70. Et jusqu'à présent, ces gens-là étaient très pro-russes et non pas pro-ukrainiens. D'ailleurs, ils viennent en général de Russie. Et Avigdor Lieberman lui-même est un ami, et il s'en fait fort, de M. Poutine. Donc moi aujourd'hui,
tout comme Benjamin Netanyahou, qui il y a encore quelques années s'affichait fièrement main dans la main avec le président russe.
Bonne mémoire, absolument. Pendant une douzaine d'années, on a eu affaire à des relations tout à fait excellentes entre Poutine et Netanyahou. D'abord, ce sont deux nationalistes, mais sur le plan syrien ou syro-iranien, en réalité, on s'entendait assez bien. Maintenant, ces derniers mois, Lapid étant au pouvoir, lui a pris assez courageusement d'ailleurs des positions pro-ukrainiennes, mais là, tout de suite, maintenant, je suis incapable de vous dire ce qu'ont voté les russophones en Israël, et ça, on le saura dans les prochains jours.
Alors, il y avait un enjeu très important également avant ces cinquièmes élections législatives en moins de 4 ans, on le rappelle. On craignait une certaine lassitude démocratique, mais d'après les chiffres auxquels nous avons accès, la participation est en hausse.
Absolument. Nouveau paradoxe en Israël, notamment par rapport aux autres démocraties. Et là encore, les instituts de sondage se sont plantés ces dernières semaines. Les Israéliens, aujourd'hui, là, enfin au moment où je vous parle, semblent avoir voté autant qu'en 1999, alors que le taux de participation avait été très élevé. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de lassitude, c'est pas faux, l'homme de la rue en a assez de voter, d'autant qu'on aboutit à peu près toujours au même résultat. Sauf que le niveau de civisme et la conscience démocratique chez les Israéliens, quand même, reste très élevé, avec une nuance, si vous le permettez. Là, d'après les chiffres que j'ai, le taux de participation dans le secteur arabe-israélien est en revanche très faible. Et de ce point de vue-là, il est de 23%. Et de ce point de vue-là, ça pourrait être un atout, en quelque sorte, pour Netanyahou et le bloc de droite, en faveur duquel, évidemment, ne vote pas pour les Arabes israéliens.
Voilà, on aura les premiers résultats dans la soirée, les définitifs à partir de demain. Merci beaucoup Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Je renvoie nos auditeurs vers votre dernier ouvrage, Les Voies de la Puissance, aux éditions Odile Jacob. Restez avec nous, dans quelques instants, nous parlons du tabac. Puisque nous sommes en novembre, à partir d'aujourd'hui, c'est le mois sans tabac. Nous serons avec Cathy Deléris, tabacologue, addictologue et aussi influenceuse sur les réseaux sociaux. Vous l'entendrez, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Nous en parlions pendant le journal, nous sommes le 1er novembre, nous avons égrené tout ce qui change hein, dans nos vies. C'est aussi le début du mois sans tabac. On vous reproche de trop fumer. Vous pensez de plus en plus régulièrement à arrêter cette bien mauvaise habitude, cette bien mauvaise addiction. Profitez d'être en novembre pour arrêter la cigarette. Beaucoup de personnes vont vous y inciter et vous aider. C'est le mois sans tabac. Cathy Deléris, tabacologue, addictologue et influenceuse, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avant toute chose, je voudrais d'abord vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaissent pas encore.
Eh bien,
c'est une cigarette électronique jetable. À la base, la cigarette électronique, c'est un outil pour arrêter de fumer. Donc, si tu es non-fumeur, non, ce n'est pas pour toi. Et là, j'entends déjà, mais pourquoi ? Parce que soit tu la prends avec nicotine et tu vas devenir dépendant à la nicotine, même si tu la prends sans nicotine, tu vas devenir dépendant au geste.
Voilà Cathy Deléris, que je présente comme tabacologue, addictologue, mais aussi influenceuse. On vient d'entendre l'une des vidéos que vous publiez quotidiennement sur les différents réseaux sociaux. On vous entendait parler à l'instant de la puff, hein, cette cigarette électronique très prisée des jeunes. On va en parler tout à l'heure. Parlons tout d'abord du tabac sous sa forme la plus répandue, la cigarette. Les ventes de paquets reculent, hein, moins 6,6% entre 2020 et 2021. Vendre le paquet à des prix toujours plus exorbitants, ça marche bien, Catherine Deléris ?
Alors, on va dire que oui, ça fonctionne, mais ce n'est pas une des seules raisons qui explique la baisse de la consommation du tabac. C'est quand même multifactoriel. Après, on remarque que aussi, malheureusement, ça ne baisse pas chez les classes socio-professionnelles basses. Donc, il faut quand même qu'on arrive à trouver d'autres leviers que ce fameux prix du paquet du tabac.
Voilà, pour rappel, on en est à plus de 10 euros le paquet de 20 cigarettes. Le gouvernement a prévu de nouvelles hausses de prix, 50 centimes en 2023, 35 centimes en 2024. Fumer de nos jours, c'est toujours synonyme de classe, de virilité, de style ?
Alors, j'espère que non. Je travaille beaucoup là-dessus, justement, sur les réseaux sociaux pour dénormaliser cette cigarette, la rendre, justement, moins sexy qu'elle pouvait avoir comme image ou moins fun. En fait, j'essaye d'expliquer que la cigarette, c'est tout sauf cool.
Il faut quoi ? La bannière de nos publicités, de nos séries, de nos films, selon vous, Catherine Deléris ?
Alors, il faut, ce qu'il faut, c'est arrêter de placer la cigarette à des moments où on se dit « Ah bah tiens, l'acteur, il est fort, il a une cigarette », parce qu'inconsciemment, notre cerveau, il fait le rapprochement entre « Tiens, je suis fort et je fume ». Et ça donne une bonne image de la cigarette. Donc non, effectivement, moins on aura de cigarettes à l'écran, mieux c'est.
Alors, aujourd'hui, beaucoup de fumeurs dénoncent une forme de stigmatisation. Ils sont quand même 15 millions actuellement en France, dont un tiers ont entre 12 et 75 ans.
Oui, tout à fait.
Alors, on ne les stigmatise pas. Il faut bien expliquer que c'est pour leur santé. Hein.
Ah ben, bien sûr. Et loin de là, parce que justement...
Parce que vous aurez toujours, vous savez, Catherine Deléris, en ce mois sans tabac, le fumeur qui vous dira « Mais moi, ça fait des années que je fume, il ne m'est jamais rien arrivé, patati, patata ».
Bien sûr, mais alors déjà on ne les stigmatise pas, ça c'est clair, parce qu'on ne choisit pas d'être dépendant, c'est quelque chose qu'on fait malgré soi, donc on ne peut pas dire vous n'avez pas de volonté, arrêtez, c'est bien plus fort que ça, donc non, par contre il faut les accompagner dans cet arrêt du tabac, parce que effectivement c'est pas facile d'arrêter de fumer, il faut avoir les bons conseils, être accompagné, et comme ça ils pourront être dans ce projet d'arrêt du tabac. Après, les mettre, les parquer d'un côté et de ne pas s'en occuper, non, ce n'est pas la solution. Au contraire, c'est de leur faire prendre conscience qu'il n'y a que du positif dans l'arrêt du tabac.
Alors, vous parliez du parquage de certains fumeurs. C'est ce qui se fait dans des pays très développés. Je pense notamment à l'Australie, où il y a des zones définies où les fumeurs n'ont pas le droit de sortir. On ne doit pas être trop près des cafés-restaurants. On ne peut pas fumer où on veut comme ça. Il y a aussi l'initiative néo-zélandaise que vous devez sûrement connaître. Le gouvernement envisage tout bonnement d'interdire la vente de tabac. Est-ce que vous pensez que c'est le type d'initiative auquel on doit réfléchir en France, plus largement dans l'Union européenne, Catherine Deléris ?
Alors, je pense qu'il faut réfléchir effectivement à ne plus vendre de tabac aux jeunes. à la jeune génération.
Le tabac est déjà interdit à la vente aux mineurs, hein.
Ça, c'est voilà, et peut-être bien le contrôler encore plus,
ouais,
dans la mesure du possible. Mais c'est surtout que ces jeunes qui arrivent, et c'est ce qu'ils font en Nouvelle-Zélande, et qui vont grandir, même s'ils vont devenir majeurs, on va pas leur vendre du tabac, effectivement. Donc, il faut jouer, effectivement, sur tous ces points d'interdiction, parce qu'on voit bien que la loi E20, il y a eu quand même des choses bien. On est bien content de plus prendre le train et que ça sente le tabac partout, d'aller au restaurant. Donc, il y a des choses positives dans ces restrictions. Mais on peut pas taper que d'un côté, il faut aussi aider de l'autre. Et ça, c'est important de, ok, vous n'avez plus le droit, par exemple, de fumer à cet endroit-là, mais par contre, à la place, vous pouvez avoir ça ou ça ou ça comme aide.
Alors, vous parliez de la volonté, hein, c'est ce qu'il y a de mieux pour arrêter de fumer, même c'est obligatoire, incontournable. Ces dernières années, on a vu émerger les cigarettes électroniques, dont on a pensé à un moment, les scientifiques ont fini par le démentir, mais dont on a pensé à un moment qu'elle permettait de d'abord diminuer sa consommation et puis d'arrêter. Est-ce que vous confirmez, la cigarette électronique ne permet pas de se débarrasser de l'addiction à la nicotine, hein ?
Eh bien, ça dépend comment. Alors, la cigarette électronique va nous permettre d'arrêter de fumer. C'est un des outils qu'on peut utiliser. Mais effectivement, si derrière, on ne diminue pas la nicotine de sa cigarette électronique, on va rester dépendant. Donc le but, c'est de l'utiliser pour, dans un premier temps, pour arrêter le tabac. Et puis après, c'est faire son sevrage de cigarette électronique, donc de la nicotine de sa cigarette électronique, pour arriver à zéro. Donc ça peut être utilisé comme un outil dans l'arrêt du tabac.
La cigarette électronique, Cathy Delery, c'est moins nocive que la cigarette traditionnelle ?
Alors, ce que disent les études, c'est que sur du court terme, pour l'instant, elle est moins nocive. Sur du long terme, on ne sait pas. C'est pour ça que les conseils qu'on donne pour l'instant, c'est en premier lieu, si vous voulez arrêter de fumer, il vaut mieux utiliser les substituts nicotiniques. Mais si vous êtes en échec des substituts nicotiniques et que vous voulez utiliser la cigarette électronique, pourquoi pas? Par contre, le but, c'est pas de la garder ad vitam aeternam. C'est surtout, effectivement, après, se sevrer, comme je vous disais, de la nicotine de cette cigarette électronique pour après ne plus avoir rien et ne plus être dépendant, de retrouver sa vraie liberté.
Le passage à la cigarette électronique, on vous a entendu, c'est une première étape vers l'arrêt du tabac. Ça peut aussi, hélas, de nos jours, on le voit de plus en plus, on en parlait sur Europe 1, une porte d'entrée vers le tabac. Vous en parliez tout à l'heure, enfin, on vous entendait en parler tout à l'heure, avec les fameuses puffs, ces objets vendus à des prix bien moins élevés que les cigarettes classiques. Et c'est surtout très pernicieux parce que voilà, ça a un bon goût et les jeunes en raffolent, hein, c'est ce qu'on observe, Cathy Delery.
Oui, tout à fait. Depuis 2 ans, Puff a fait vraiment un marketing agressif envers la jeune génération, c'est-à-dire que c'est plutôt ciblé pour les adolescents avec des goûts tels que Barba Papa, Bubblegum ou je ne sais quoi. Et ils ont payé des influenceurs pour faire la promotion de ces cigarettes électroniques. Je rappelle, comme je l'ai dit, que la cigarette électronique, c'est à la base quelque chose pour arrêter de fumer. Donc si on est non-fumeur et qu'on commence la cigarette électronique, déjà on va devenir dépendant à la nicotine. Et effectivement, en plus c'est pas écologique vu que c'est jetable, mais en plus on se pose la question de cette jeunesse qui va être dépendante à la nicotine à un moment donné. Bubblegum, ça va effectivement quand on est adolescent, mais petit à petit en grandissant, est-ce qu'ils vont pas se tourner vers d'autres choses, et notamment le tabac.
Alors, est-ce que vous avez un message à adresser aux autorités sanitaires? Je pense notamment à un meilleur encadrement du marketing, parce qu'aujourd'hui, on rentre dans n'importe quel bureau de tabac, les publicités pour la puff, hein, on les voit.
Oui. Alors, normalement, effectivement, on n'a pas le droit de faire de la publicité.
C'est 100 000 euros d'amende, sinon. Ouais.
Voilà, tous les produits de vapotage ou du tabac, il n'y a pas de pub possible depuis cette fameuse loi E20. Sauf que, effectivement, ils passent par des choses détournées, parce que quand ils payent un influenceur, il va faire comme si c'était une démonstration. Bah tiens, aujourd'hui, je vais comparer le goût bubblegum à Barba Papa. Et en fait, c'est vraiment de la publicité déguisé. Donc moi, ce que je demande aux autorités, effectivement, c'est que de toute façon, ce produit n'a pas vocation à être, avoir un packaging comme ça et un marketing envers les adolescents. Donc je rejoins l'association ACT, Alliance contre le tabac, qui a demandé effectivement l'interdiction de ce produit parce que on est en train de faire une génération de dépendants à la nicotine.
Le mois sans tabac commence aujourd'hui. Vous pouvez suivre Cathy Deléris, tabacologue, addictologue et influenceuse. Vous êtes présente sur tous les réseaux sociaux, hein, Instagram, Twitter, Facebook.
Oui, tout à fait. On peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Effectivement, je suis essentiellement sur TikTok, mais on me retrouve aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram.
Voilà, vous vous adressez surtout aux jeunes, hein, mais on peut consulter vos bons conseils si voilà, on se dit que c'est le moment ou jamais d'arrêter de fumer. C'est bon pour soi en premier lieu, mais aussi pour ses proches. Hein, on le rappelle, Catherine Deléris.
Tout à fait. Chaque année, il y a quand même entre 4000 et 5000 morts du tabagisme passif. Donc, c'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres qu'on peut arrêter de fumer.
Le tabac est dangereux pour votre santé, on ne cessera jamais de vous le rappeler. Merci beaucoup, Cathy Deléris, tabacologue,
merci,
addictologue. Dans quelques instants, le retour de l'information avec Guillaume Dominguez. Et puis, votre grande soirée sport. Et oui, il y a match olympique de Marseille qui va tenter sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Tottenham. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h, Raphaël Delvolvé.